Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 24 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Burkina Faso, les partis de la majorité présidentielle appellent au respect des résultats des élections de dimanche. L'opposition dénonce des fraudes. Démission du représentant de l'Union africaine au Mali, l'ancien président burundais Pierre Buyoya, qui fait face à la justice de son pays. Dissension entre Africains et Européens sur une réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur la guerre au Tigré. Donald Trump a finalement donné son feu vert lundi soir au processus de transfert du pouvoir au président élu Joe Biden. Après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. Les partis de la majorité présidentielle au Burkina Faso appellent au respect des résultats du double scrutin présidentiel et législatif de dimanche. L'annonce fait suite aux menaces de l'opposition de ne pas les reconnaître. Le point avec Bagassi Koura.
L'Alliance des partis de la majorité présidentielle invite tous les acteurs au respect des résultats des urnes et les candidats à recourir aux structures appropriées, notamment aux juridictions compétentes pour examen de leurs récriminations, a déclaré au nom de la majorité Maître Benewende Sankara lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Lundi, alors que la commission électorale venait d'entamer la publication partielle des résultats, l'opposition a estimé que le double scrutin de dimanche était émaillé de fraude, menaçant de ne pas accepter les résultats. L'opposition avait déjà affirmé samedi, à la veille du scrutin, qu'une fraude massive était en préparation. Benewende Sankara a répondu que les insuffisances relevées, bien que regrettables, ne vont pas impacter de manière significative les résultats. Le clan présidentiel a promis, comme en 2015, une victoire dès le premier tour.
Démission du représentant de l'Union africaine pour le Mali, l'ancien président burundais Pierre Buyoya. La justice de son pays l'a condamné par contumace dans l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du Burundi. Monsieur Buyoya avait décidé d'interjeter appel. Le point avec Kassim Traoré à Bamako.
C'est l'un de ses proches collaborateurs qui nous a informé de cette démission du représentant de l'Union africaine au Mali. Le président Pierre Buyoya a effectivement démissionné la semaine dernière de son poste. C'est un rapport avec sa dernière condamnation injuste dans son pays, comme vous le saviez, il a décidé d'interjeter appel. Demain mercredi, il organisera un point de presse à Bamako pour s'exprimer pour la première fois depuis sa démission. Fin de citation. Pierre Buyoya a été condamné à perpétuité dans le procès de l'assassinat de Melchior Ndadaye par la Cour de justice de Burundi. L'ancien président burundais est avec 18 autres accusés dans l'affaire du procès de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu dans ce pays. Il a été tué en octobre 1993. C'est en octobre 2019 que le procès avait commencé et son verdict n'a été connu qu'un an après son ouverture. En tout cas, les représentants de l'Union africaine au Mali, l'ancien président burundais, s'apprête à prendre la parole demain afin d'expliquer les raisons de sa démission. Bamako, Kassim Traoré, VOA Africa.
Les autorités sénégalaises cherchent toujours à élucider la mystérieuse maladie de peau qui a affecté un millier de pêcheurs dans la région de Dakar, a déclaré ce mardi Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé. Le risque viral et contagieux est écarté sur un total de 1004 cas, a dit le ministre lors d'une conférence de presse. Condamné à 20 ans de prison, le directeur de cabinet du président de la RDC, Victal Kamere, est sérieusement malade, a déclaré à la presse le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïché. L'ancien président de l'Assemblée nationale a besoin de soins appropriés. Il y aura peut-être nécessité de le faire évacuer, a-t-il ajouté. Au Cameroun, la présidente des femmes du MRC de Maurice Kamto a été écrouée pour 6 mois après une marche réclamant la libération de l'opposant retenu à domicile depuis 2 mois. Fri Awassoum Mispa a été arrêtée samedi à Yaoundé avec une vingtaine d'autres femmes. Le domicile de M. Kamto à Yaoundé a été encerclé par la police après son appel à des manifestations pacifiques pour le départ du président Paul Biya. Les Africains et les Européens ont affiché leur division sur la nécessité ou non de tenir une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre au Tigré. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Hier, l'Afrique du Sud, présidente en exercice de l'Union africaine et d'autres membres non permanents du Conseil de sécurité ont réclamé une réunion. Ce matin, revirement et retrait de la demande africaine, car les émissaires africains choisis ne se sont pas encore rendus en Éthiopie, a expliqué un diplomate africain. Les Européens membres du Conseil ont annoncé que la réunion virtuelle et à huis clos se tiendra quand même aujourd'hui. Les pays africains disent « solution africaine aux problèmes africains », c'est quelque chose que nous devons respecter, mais jusqu'à un certain point, souligne un diplomate européen. Cette réunion du Conseil de sécurité intervient alors que le président de la région dissidente du Tigré a affirmé lundi que son peuple était prêt à mourir après un ultimatum de 72 heures lancé par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants tigréens pour qu'ils déposent les armes et se rendent.
Dans un rapport, la Commission éthiopienne des droits de l'homme affirme qu'au moins 600 personnes ont été tuées au cours d'un massacre perpétré le 9 novembre à Maïkadra. Le conflit a déjà poussé 40 000 habitants du Tigré à se réfugier au Soudan et a provoqué d'importants déplacements internes. Le gouvernement soudanais ne possède aucune information sur la venue d'une délégation israélienne dans le pays, ni d'une possible visite d'une mission soudanaise en Israël, a affirmé ce mardi son porte-parole Faisal Mohamed Saleh. La veille, la radio de l'armée israélienne avait annoncé qu'une délégation se rendait le jour même au Soudan, troisième pays de la région à avoir normalisé ses relations avec l'État hébreu après les Émirats arabes unis et Bahreïn. Une centaine de députés libyens de tous bords participent jusqu'à mercredi à une réunion consultative à Tanger au Maroc sous l'égide de l'ONU pour trouver une solution à la crise libyenne suite à l'accord de cessez-le-feu signé fin octobre. La mission d'appui des Nations Unies en Libye s'est félicitée qu'un éventail aussi diversifié de parlementaires des trois régions de Libye se réunissent sous un même toit, y voyant une étape positive. Un journaliste et un lanceur d'alerte algérien ont été condamnés à un an de prison ferme par un tribunal d'Oran, a indiqué leur avocat maître Farid Kemisti. Saïd Boudour était poursuivi notamment pour atteinte au moral de l'armée pour ses publications sur Facebook, tandis que son co-prévenu Noureddine Tounsi devait répondre d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, selon des médias locaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après plus de deux semaines de refus des résultats des élections américaines, le président Donald Trump a montré un signe d'ouverture à l'équipe de transition de Joe Biden. Il s'est toutefois gardé de reconnaître directement la victoire du démocrate. Le point avec John Lyndon.
Donald Trump a promis sur Twitter de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes aux élections du 3 novembre. « Et je crois que nous triompherons », a-t-il affirmé. Néanmoins, a nuancé le président américain, « dans l'intérêt supérieur de notre pays, je recommande que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir fasse ce qui est nécessaire concernant les protocoles et j'ai demandé à mon équipe de faire de même. » L'équipe de Joe Biden a aussitôt pris note d'une étape permettant un transfert du pouvoir pacifique et sans incident. Le démocrate prépare son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Il a annoncé hier plusieurs nominations dans son futur gouvernement, dont Anthony Blinken comme futur chef de la diplomatie américaine ou encore Janet Yellen, pressentie au Trésor.
La victoire de Joe Biden à la présidentielle dans l'État de Pennsylvanie a été officiellement certifiée ce mardi après la certification des résultats dans le Michigan. La responsable des élections pour la Pennsylvanie, Catherine Buchvar, a certifié les résultats, a tweeté Tom Wolf, gouverneur démocrate de l'État. Il a précisé avoir signé dans la foulée le certificat confirmant la victoire de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris dans cet État du Nord-Est comptant 20 grands électeurs. En Afghanistan, au moins 14 personnes ont été tuées ce mardi quand deux bombes ont explosé dans la province de Bamiyan. Des explosifs placés dans un marché ont explosé, tuant 13 civils et un agent de circulation et blessant 45 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. L'Inde a annoncé l'interdiction de 43 applications mobiles chinoises, dont certaines d'Alibaba, estimant qu'elles menacent sa souveraineté et son intégrité dans un climat de tension entre les deux pays suite à un affrontement frontalier et meurtrier en juin. Et la Chine a lancé ce mardi vers la Lune une sonde destinée à collecter des échantillons de roches, la première mission du genre depuis celle menée par l'ex-URSS en 1976. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique.
10% en 2020 par rapport à 2019, selon l'Association internationale du transport aérien. Ces chiffres devraient atteindre 328 milliards de dollars. La crise du Covid-19 continue de terrasser le secteur et a réduit ses coûts d'un milliard de dollars par jour en 2020 et va continuer à accumuler des pertes sans précédent. Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, est devenu le deuxième homme le plus riche au monde selon le classement de l'agence Bloomberg. La fortune de l'entrepreneur de 49 ans né en Afrique du Sud s'est étoffée de 7,24 milliards de dollars sur la seule journée du lundi pour s'établir à 128 milliards de dollars.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Ligue européenne des champions peut dévoiler ses premiers qualifiés pour les huitièmes de finale ce soir. À suivre Krasnodar FC Séville, Rennes-Chelsea. Face aux deux néophytes de leur groupe, Chelsea et Séville peuvent être les premiers qualifiés. Deux autres grosses écuries seront qualifiées en cas de victoire. La Juventus Turin et surtout le FC Barcelone, premier du groupe G. Les Barcelonais peuvent décrocher leur ticket pour les huitièmes en cas de victoire en Ukraine contre le Dynamo Kiev. Pareil pour la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo si elle dispose à domicile des Hongrois de Ferencváros. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain joue un match critique face au RB Leipzig. Le leader de leur groupe Manchester United tentera, lui, de se venger à Old Trafford du Başakşehir qu'il avait battu 2-1 à Istanbul. Mais les Mancuniens ne seront pas qualifiés ce soir, quoi qu'il arrive. Athlétisme, la Ligue de Diamants, le plus important circuit de meeting d'athlétisme, a dévoilé son calendrier réduit de 15 à 14 manches pour 2021. Après avoir subi une saison quasi blanche en raison de la crise sanitaire, le meeting de Gateshead, qui n'avait pas pu avoir lieu cette année, disparaît, ne laissant qu'un seul rendez-vous au Royaume-Uni à Londres le 13 juillet. La dernière compétition d'envergure avant les Jeux Olympiques de Tokyo reportée d'un an à l'été 2021. Les 13 premières compétitions, dont l'ouverture à Rabat au Maroc le 23 mai, permettront aux athlètes de se qualifier pour la finale disputée sur deux jours à Zurich, en Suisse, les 8 et 9 septembre. Le calendrier est strictement provisoire à ce stade et reste sujet à des modifications selon la situation sanitaire mondiale en 2021, précise la Ligue de Diamants dans un communiqué. Le prestigieux circuit a subi de plein fouet la pandémie de nouveau coronavirus cette année et n'a pu proposer que 4 véritables compétitions, Monaco, Rome, Stockholm et Doha, et 3 exhibitions ou meetings réduits, Oslo, Bruxelles et Lausanne. Ici, aux États-Unis, c'est une première historique en NFL. L'arbitre Jerome Boger et ses 6 assistants sont devenus la première équipe entièrement noire à arbitrer un match de la Ligue nationale de football américain. C'était à la faveur de la rencontre entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Los Angeles Rams. L'équipe d'arbitre est entrée sur le terrain avec des références impressionnantes, en particulier le vétéran Boger, troisième arbitre noir de l'histoire de la NFL. Juge des lignes, il a été promu au rang d'arbitre en 2006. Je suis fier de mon héritage et enthousiaste à l'idée de participer à ce match historique, a déclaré Boger lors de la préparation de la rencontre.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, la commission électorale a commencé à annoncer les résultats du double scrutin de dimanche. L'opposition affirme qu'il y a eu fraude et de nombreux dysfonctionnements. La CENI s'en défend et les partis de la majorité présidentielle appellent à l'apaisement. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Aussitôt que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a commencé à proclamer les premiers résultats, l'opposition s'est mise à crier à la fraude et à de nombreux dysfonctionnements. Tahirou Bari, porte-parole de l'opposition.
Tous les observateurs sont unanimes pour dire que la CENI a failli dans l'organisation administrative et pratique des élections du 22 novembre 2020. Toute chose qui nous amène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats. Nous exprimons toute notre consternation quant à la manière dont ces organisations ont été faites.
Pour l'alliance des partis de la majorité, ces dysfonctionnements ne peuvent pas entacher la crédibilité des élections. Maître Benoumoundé Sankara en est le porte-parole.
La PNB convient avec l'ensemble des observateurs internationaux et nationaux qui ont déjà rendu publique leur conclusion que les insuffisances relevées, quoique regrettables, ne sont pas d'une ampleur susceptible d'impacter de manière significative les résultats des scrutins. La PNB invite les candidats de l'opposition à l'apaisement et surtout à poursuivre l'esprit de concertation et de consensus.
De son côté, la commission électorale se défend. Newton Ahmed Barry, président de la CENI.
Conduire une opération sur un pays, sur l'ensemble de pays, le même jour, sur 22 pays à l'étranger, on ne peut pas dire qu'on réussit tout. Mais cela ne nous dédouane pas de reconnaître qu'il y a eu quelques difficultés. Nous ne sommes pas dans un pays qui est normal aujourd'hui. Il y a une difficulté réelle liée à la situation d'insécurité que nous vivons. Mais malgré tout ça, je pense que sur les 351 communes, il n'y a que 15 où nous n'avons pas pu ouvrir.
Selon les analystes et autres observateurs, cette situation est un début de crise post-électorale et le Conseil constitutionnel devrait se prononcer. Pazien est juriste et analyste politique.
Nous assistons donc à un début de crise. On pourrait déjà s'attendre à ce qu'il puisse avoir des pourparlers politiques. C'est le moment pour le Conseil constitutionnel de rentrer en jeu. C'est à présent que le Conseil devrait se saisir donc de ces questions pour pouvoir se prononcer sur les régularités ou les irrégularités qu'on a pu constater de part et d'autre, et dit est-ce que cela a pu entacher le scrutin. Si tel est le cas, le Conseil donc devrait pouvoir ordonner la reprise du scrutin. Si tel n'est pas le cas, il va falloir donc que le Conseil se prononce.
Les travaux de délibération de la commission électorale se poursuivent. Sur les 15 commissaires, 5 proches de l'opposition ne sont pas présents ce mardi. La proclamation des résultats provisoires est attendue ce mardi nuit ou plus tard mercredi, selon la CENI. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Russie affirme avoir conclu un accord avec le Soudan pour construire sur la côte de la mer Rouge sa première base militaire en Afrique. De l'avis des analystes, cela pourrait compliquer les efforts de Khartoum en vue d'améliorer ses relations avec Washington. Un reportage de Naba Moyedine, le récit est de Michel Joseph.
L'annonce russe fait état de la signature avec Khartoum d'un bail de 25 ans renouvelable pour une base navale qui sera construite à Port-Soudan. Le président russe Vladimir Poutine dit avoir ordonné son ministre de la Défense à signer cet accord conclu en 2017 avec le gouvernement de l'ex-président soudanais Omar al-Béchir. Une source au sein du gouvernement soudanais a confirmé l'information à la VOA, mais aucun responsable n'a publiquement réagi à l'annonce du gouvernement russe. L'analyste Majdi Kanab évalue l'importance de la base navale en projet.
La présence russe en mer Rouge est une tentative de la Russie d'avoir une présence en Afrique. C'est un objectif tactique et non stratégique pour irriter les États-Unis dans leur zone d'influence et faire contrepoids à la pression américaine sur les zones d'influence russes comme la Syrie et la Libye spécifiquement.
La future base russe en mer Rouge aura de l'espace pour 4 navires, y compris des vaisseaux à propulsion nucléaire, et abritera jusqu'à 300 marins et employés. Cameron Hudson est chercheur au Centre pour l'Afrique du Conseil Atlantique. Il est d'avis que l'accord entre Moscou et Khartoum va nuire les relations américano-soudanaises.
Cette décision n'a aucun sens. Le Soudan et l'Occident sont sur le point d'entamer un nouveau chapitre dans leur relation avec de nouveaux alliés à même d'aider le Soudan dans sa transformation politique, économique et sécuritaire. Permettre à un autre pays de prendre pied stratégiquement en mer Rouge sape le virage du Soudan vers l'Occident, de même que la présence d'une puissante force dans le pays pourrait subvertir les objectifs de la révolution.
Il a souligné aussi la possibilité que l'annonce de Moscou s'inscrit dans le cadre d'une propagande que le Soudan a peur de contester. Khartoum a un gouvernement militaire et civil depuis août 2019. Il a annulé ou révisé certains accords signés par le régime d'Omar al-Béchir, y compris ceux avec la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis. En mai 2009, les militaires soudanais ont approuvé la construction par la Chine d'une ligne de chemin de fer entre Port-Soudan et l'État du Nil Bleu pour un coût de 3 milliards de dollars. L'analyste Majdi Kanab pense que l'accord signé par Moscou pour une base navale est le signe d'une lutte d'influence de la Chine et de la Russie en Afrique. Pour l'heure, la position des États-Unis par rapport au projet russe au Soudan n'est pas claire. Le mois dernier, Washington a convenu de retirer le Soudan de sa liste de pays soutenant le terrorisme. Cette mesure pourrait permettre au Soudan d'attirer les investisseurs et d'obtenir des institutions internationales comme la Banque mondiale les prêts dont il a tant besoin.
Le président élu Joe Biden a annoncé lundi ses choix pour son futur gouvernement, dont un proche conseiller et ancien secrétaire d'État adjoint, Anthony Blinken, pour être le prochain chef de la diplomatie américaine. Cindy Sain revient sur ses nominations. Le récit est de Lionel Gaïma.
Iran made a fundamental choice.
Anthony Blinken, 58 ans, a été secrétaire d'État adjoint sous l'ancienne administration Obama-Biden. Il conseille le président élu Joe Biden depuis 2002. Il a fait ses études secondaires à Paris. Il est aussi un fervent partisan de l'OTAN et d'autres institutions multilatérales. S'il est confirmé par le Sénat, il succédera à Mike Pompeo aux commandes du département d'État. Blinken a dirigé la réponse américaine à une crise mondiale des réfugiés et en 2016, il est apparu dans l'émission américaine pour enfants Sesame Street pour expliquer qui sont les réfugiés et comment nous pouvons tous apprendre les uns des autres.
Ce sont des gens qui ont dû quitter leur maison. Grover, pouvez-vous imaginer à quel point il est difficile de quitter sa maison?
Non, je ne peux pas. Je ne voudrais jamais quitter Sesame Street.
Certains analystes disent que sa première priorité sera de réparer les relations et revenir sur les accords que le président Donald Trump a abandonnés, comme l'accord sur le nucléaire iranien. Mark Simakowski de l'Atlantic Council.
Je pense que sa première et sa plus grande priorité sera de restaurer la perception des États-Unis en tant qu'allié et partenaire de confiance dans le monde. Je pense qu'il va vouloir consolider des relations qui ont été endommagées. Essentiellement, vous savez, le mantra est « nous sommes de retour ». Vous ramenez les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat en essayant de trouver un moyen de prolonger potentiellement le nouvel accord START.
Et l'ancien secrétaire d'État John Kerry, 76 ans, s'il est confirmé par le Sénat, fera son retour au gouvernement en tant qu'émissaire spécial du président américain sur le climat. Dans une autre annonce, l'africaine-américaine Linda Thomas-Greenfield, diplomate chevronnée des 68 ans, qui a été secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, deviendra l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU.
Mais ce que j'ai, je transporte avec moi.
les espoirs et les rêves de ma mère. Elle m'a appris à un très bas âge que je pouvais faire face à n'importe quel défi ou n'importe quelle adversité sur mon chemin.
Alejandro Mayorkas, né il y a 60 ans à La Havane, sera le premier hispanique à diriger le ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise notamment les questions d'immigration. Également sélectionné, Avril Hind, 51 ans, comme directrice du renseignement national, un poste jusqu'ici occupé par des hommes. Enfin, Joe Biden a nommé un autre proche collaborateur, Jake Sullivan, 43 ans, comme son conseiller à la sécurité nationale.
Le président américain change souvent la politique du gouvernement par des décrets pour contourner le Congrès et le processus législatif. Le président Donald Trump s'est fortement appuyé sur ce moyen et le président élu Joe Biden a promis de faire de même. Un reportage de Mike O'Sullivan, le récit est d'Abdourahman Dia.
C'est par un décret en janvier 2017 que Donald Trump a temporairement limité l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane qui, selon lui, étaient des foyers de terrorisme. Cette décision a été largement critiquée et rapidement bloquée par les tribunaux, déclenchant des batailles juridiques. Une mesure moins radicale a ensuite été confirmée, mais elle sera probablement annulée par Joe Biden, qui prendra fonction le 20 janvier. John Woolley de l'American Presidency Project.
Parce que presque n'importe quel décret peut être annulé par une autre décision, nous pouvons être certains que Joe Biden ne va pas y aller de main morte en termes de décret.
Le premier président George Washington a publié le premier décret présidentiel donnant des instructions au ministère. Abraham Lincoln a libéré des esclaves dans la proclamation de l'émancipation avec deux décrets distincts pendant la guerre civile. Franklin Roosevelt a signé plus de 3700 décrets, plus que tous les présidents. Le pouvoir de prendre des mesures unilatérales n'est pas précisé dans la Constitution, qui dit simplement que le président est en charge de la branche exécutive du gouvernement. Kenneth Meyer de l'Université de Wisconsin.
Ces décrets sont une application naturelle de la large attribution du pouvoir exécutif qui est inscrite dans la Constitution.
Un des décrets de Franklin Roosevelt, plus tard largement critiqué, a confiné les Américains d'origine japonaise dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Trump a également utilisé des mesures exécutives pour mettre en œuvre des changements politiques controversés, comme le retrait de l'accord de Paris, contournant ainsi le Congrès. Kim Whale, de la faculté de droit de l'Université de Baltimore.
Sur la séparation des pouvoirs, les questions constitutionnelles sont désormais arrachées de l'actualité chaque jour.
Au cours de son mandat, Trump a publié 55 décrets, dont un autorisant la construction d'un mur à la frontière sud. Parfois, les différentes branches du gouvernement ont bien collaboré. La Cour suprême, par une décision historique, et le président Dwight Eisenhower, par décret, ont intégré les écoles pendant les années 50. Mais parfois, les présidents agissent seuls, suscitant des conflits avec les autres branches du gouvernement. Harry Truman a nationalisé les aciéreries pendant la guerre de Corée. Kim Whale est de la faculté de droit de l'Université de Baltimore.
C'est vraiment une tentative de prise de contrôle de l'industrie privée pour servir l'effort de guerre. Le tribunal a dit que ce n'était pas normal. Bien sûr, c'est un tribunal complètement différent.
Trump utilise ses deux derniers mois au pouvoir pour laisser sa marque sur le gouvernement en installant des loyalistes à des postes clés et en émettant des directives. John Woolley de l'American Presidency Project.
L'une des choses que nous allons voir de la part de l'administration Trump est une production agressive des règlements au cours des deux prochains mois. Cela ne fera que retarder les
choses.
Ralentir, mais peut-être pas arrêter les efforts de changement de Biden.
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
VO Afrique, il est 14h à Washington DC, 19h en temps universel. Mohamedou Oumfa à ce micro pour un bulletin d'information. En RDC, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est sérieusement malade et a besoin de soins appropriés, sinon ça risque d'être une catastrophe, a déclaré à la presse le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïché. Il y aura peut-être nécessité de le faire évacuer, a-t-il ajouté. Emprisonné depuis avril, M. Kamerhe souffre de problèmes